la santé, l'odeur de l'été approchant et l'envie d'arpenter de nouveaux paysages. Admirer la vue dans le bleu du soir, ourlé de roses par le coucher du soleil, dans un lieu que l'on a arpenté et découvert dans la journée. Et si finalement on partait à la découverte tout près de chez soi, à deux pas d'ici? Car comme le disent si justement les personnes d'un certain âge, ce que l'on connaît le moins, c'est ce qu'il y a autour de nous. On en parle ce soir dans la lorgnette, dans ce dernier épisode de la saison, avec nos trois invités. Et bonjour à toutes et à tous autour de la table.
Bonjour.
Bonjour.
En studio ce soir dans la lorgnette pour parler de tourisme et de tourisme local, nous accueillons en studio Candy Pastre. Bonjour.
Bonjour.
Autrice de l'ouvrage 111 lieux dans le Loir-et-Cher à ne pas manquer, qui est paru au mois de mai dernier. Nous accueillons également David Amo, directeur de l'Office de tourisme Blois-Chambord-Val-de-Loire. Bonjour David.
Bonjour.
Et puis Patrick Éclairci de Terpigny, président de l'association Au Cœur de Trot et vice-président de l'Office de tourisme de Vendôme. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, elle est née de la parution de votre ouvrage Candy, et ça nous a donné envie de finir cette saison de la lorgnette en parlant plus largement de tourisme et de tourisme local et de comment se porte ce secteur en Loire-et-Cher. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans cette chanson.
Connaissez-vous mon Val de Loire, ses sables d'or et ses coteaux, le beau décor de notre histoire qui se déroule autour de ses châteaux?
Mon Val-de-Loire de Georgette Plana. Dans les années 55-60, le Val-de-Loire est déjà mis à l'honneur en musique par Georgette Plana. Ses coteaux, ses châteaux de la Loire, ses champs de blé et ses étangs, toutes les facettes de l'image d'Épinal. Mais ce soir, on est là pour parler plutôt des chemins de traverse. Alors pour commencer cette émission, Candy, d'où vous est venue l'idée de ce livre et qu'est-ce qu'on peut y découvrir dans cet ouvrage ?
Alors l'idée est venue tout simplement que je suis arrivée donc il y a 4 ans dans le Loir-et-Cher, et donc c'était juste après la Covid, et j'ai commencé à prospecter, à explorer un peu le département. J'ai par ailleurs une formation d'histoire de l'art et d'archéologie, donc en fait j'ai toujours voulu aller visiter un petit peu les choses qu'on ne mettait pas forcément tout de suite en avant. Et j'ai eu le coup de cœur au départ, ça a été ça qui a déclenché tout, c'est que le Lavardin, donc cette église, qui était un petit peu... Il n'y avait personne, en fait. Donc, c'était vraiment une journée où j'étais toute seule dans le village. Et quand je suis rentrée dans l'église, j'ai été stupéfaite de la richesse de ces peintures romanes du 12e, 13e, 14e siècle. Je n'en avais jamais entendu parler. Et en fait, c'est là où j'ai commencé sur Instagram, donc, à parler et à donner des lectures aux gens. S'ils veulent découvrir autre chose que les châteaux, par exemple, on a effectivement un patrimoine très fragile, discret, mais il faut parfois peut-être avoir l'œil ou avoir peut-être l'envie d'aller pousser une porte pour pouvoir découvrir ce trésor. Et de fil en aiguille, j'ai été contactée par un éditeur qui a vu le travail que j'avais fourni et qui m'a proposé de rassembler la plupart de mes recherches à travers ce guide qui est comme une carte au trésor un petit peu.
Des lieux insolites, c'est un peu votre mission de mettre en valeur, Patrick, avec votre association Au Cœur de Trot, ce village troglodytique que moi je ne connais pas encore, qui est sur ma liste de destinations à aller voir en Loire-et-Cher. Depuis quand existe cette association Au Cœur de Trot ?
Alors en fait, on avait un autre nom. La véritable association qui s'appelait Trot Tourisme en 2012, est née en 2012. Et puis, pourquoi on a changé de nom ? Parce qu'en fait, si vous voulez, au tout début, ça avait été créé pour pallier la fermeture des syndicats d'initiative dans le secteur, puisque c'était l'agglomération du territoire vendômois qui voulait reprendre sur un gros office de tourisme centré à Vendôme. Et dans la commune, certains ont voulu proposer cette association de façon à faire du renseignement touristique. Et puis aussi, quelques petites animations, mais très peu en fait. Et puis lorsque je suis arrivé avec une nouvelle équipe dans l'assaut, eh bien on a développé, on a commencé à proposer plein de choses. On est arrivé à 15 à 18 animations par an sur le village. Et puis surtout quelque chose d'important qui nous a décidé à changer de nom, c'est que les gens nous confondaient avec un office de tourisme, trop tourisme. Et puis pensaient qu'on travaillait pour la commune, qu'on était en fait une petite antenne de la commune. Et puis, on s'est dit, on va changer de nom, on va essayer de trouver quelque chose de plus rond. Et on a fait aussi un héritage d'une association qui était en sommeil depuis des années, qui s'appelait Les Amis de Trop, et qui nous ont en fait donné leur trésorerie qui était figée depuis des années, quand même une belle somme de quelques dizaines de milliers d'euros. Et deux sites, les caves fortes, donc la contraction de caves fortes, des caves, des galeries souterraines, et une grande cave. Donc on s'est dit, puisqu'on va prendre un nouvel essor, puisque notre but c'était, on en parlera peut-être tout à l'heure, de remettre tout ça en ouverture au public, il faut qu'on change de nom. Et on a changé de nom ensuite pour s'appeler Au cœur de Trop.
Au cœur de Trop, donc, association. Et David Amo, vous êtes le directeur de Blois-Chambord Val-de-Loire. Alors, je me demandais comment sont institués les offices de tourisme en France. Déjà, comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont toutes la même entité juridique ou non?
Non, pas du tout. Il y a des EPIC, il y a des associations. Nous sommes une association. Et à ce titre, je suis intéressé par ce que j'entendais de la part de mon voisin qui notait l'intérêt des petites associations au sein de l'information et de l'accueil touristique dans les grandes destinations. En fait, c'est en effet un enjeu primordial que de savoir compter sur le tissu associatif pour assurer l'accueil, la relation avec les visiteurs. Et en fait, sur la destination de Blois-Chambord-Val-de-Loire, qui regroupe trois territoires, les deux rives de la Loire dans le Loir-et-Cher, pour faire vite, on a travaillé beaucoup là-dessus aussi, en considérant qu'il y avait des professionnels de l'accueil touristique qu'il était important de valoriser, qui faisaient un travail d'accueil, de promotion et notamment d'aiguillage pour tous les visiteurs qui viennent nous rencontrer. Mais une des plus-values particulières du tissu associatif, c'est de savoir rentrer en relation réelle avec le quotidien de leur vie touristique, de l'offre patrimoniale, de l'offre culturelle d'une manière générale, et puis aussi rentrer en contact avec le responsable d'une association d'un village tel que celui de Trop, par exemple. C'est vraiment très important. C'est celui qui va savoir guider, qui va savoir donner la petite information qui va faire que le visiteur qui arrive sur un territoire qu'il ne connaît pas va être en mesure de découvrir très vite et d'avoir le bon tuyau. Et le bon tuyau, c'est celui dont il parlera après, qui dira « Oh là là, moi j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vu un endroit particulier ». Et en fait, c'est ce type de promotion qui est essentiel pour nous. Mmh. Aujourd'hui, ça fonctionne. Le tourisme fonctionne comme ça, beaucoup par bouche à oreille, beaucoup par connaissance particulière, la notion d'expérience, de vacances particulières, celle qu'on a eue mais que les autres n'ont pas forcément pu découvrir. En fait, c'est ça qui fait la pépite de nos destinations. Et on en reparlera peut-être, mais en tout cas, nous, sur la destination Blois-Chambord-Val-de-Loire, on y travaille beaucoup. Et on sait, en effet, reposer aussi beaucoup sur le tissu associatif. En 2012, vous l'avez dit, le Code du tourisme a fait disparaître les syndicats d'initiative. Alors, l'effet regroupement des gros offices de tourisme, comme vous le disiez, c'est un intérêt parce qu'on professionnalise le métier, réellement. Mmh. On se dote d'outils nouveaux. Mais encore une fois, tout le travail qui avait été fait par les habitants, par les restaurateurs, par les gens qui portent des associations locales, des musiciens, tout ce tissu associatif qui est d'une richesse assez peu mesurable quantitativement, finalement, mais qui est là et qui fait l'identité particulière de la France plus largement et notre territoire en particulier, c'est... Nous, on a voulu vraiment compter dessus et je vois que sur le département et même sur le Val-de-Loire, c'est vraiment une question qui reste vraiment prégnante. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, quand on en introduction, vous aviez passé une chanson et en fait, elle parlait de Val-de-Loire. Elle évoque le Val-de-Loire. Oui. Et en fait, nous, quand on parle de destination, en fait, on a cet intérêt de dire, ben, en fait, on s'en fiche un peu de savoir si on est dans le Loir-et-Cher ou si on est en Touraine ou si on est à Lyon. En fait, le visiteur, ce qu'il veut, c'est avoir une accroche de représentation dans sa tête. Il se dit, je suis allé dans le Val-de-Loire et j'ai vécu tout ça dans le Val-de-Loire. En fait,
et
ça, c'est des vrais enjeux pour
comme
nous.
Comme vraiment enjeu central de ces représentations-là. Patrick, juste avant l'émission, vous m'expliquiez que vous êtes en lien pour continuer sur cette question du réseau associatif. Par exemple, dans la vallée du Loire et près de Troyes, il y a de nombreuses associations patrimoniales de ce type. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes?
Oui, bien sûr. Nous travaillons régulièrement avec, par exemple, les Amis de Lavardin, ce village médiéval très prisé des touristes lorsqu'ils sont dans le Vendômois. L'association du château de Vendôme, bien sûr. Nous avons aussi l'association du TTVL, le train touristique de la vallée du Loire, l'association de l'amicale de la gare de Troyes, Perche Nature. Donc on est appelé régulièrement à travailler avec toutes ces associations, que ce soit pour se prêter du matériel, se donner un coup de main. C'est vraiment une force vive. Et ça fonctionne à peu près depuis 4 à 5 ans. Et franchement, c'est un vrai moteur pour tout le monde, quoi. C'est extraordinaire, quoi.
Candy, votre guide se présente avec l'objectif de plonger le lecteur dans le patrimoine discret et unique du Loir-et-Cher. Alors, comment vous avez découvert tous ces lieux insolites et est-ce que vous pouvez nous en parler d'un en particulier ?
Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le fameux territoire du Val-de-Loire. C'est vrai que dès qu'on vient ici, le Val-de-Loire, c'est un territoire qui est très large, qui est très grand. Et c'est vrai qu'on a souvent les mêmes idées. Ce sont les châteaux, la Sologne. Et c'est vrai que le Loir-et-Cher, j'ai été vraiment surprise parce que le Loir-et-Cher, il est un petit peu entre deux. C'est-à-dire que soit on le met dans les châteaux, soit on le met en Sologne, ou... On ne va jamais, ou les seules sources que j'ai trouvées datent des années 60, vraiment rentrer dans des villages. Pourquoi ce village s'appelle Selhomme? Quelle est la légende derrière le dolmen de Cornemage qui est entre deux magnifiques champs? D'où viennent ces civilisations beaucoup plus anciennes que celles qu'on connaît? Le but était souvent, enfin pour moi, était plutôt d'aller chercher des lieux ou des histoires que l'on ne connaît plus ou peu, et en fait de faire un parallèle aussi un petit peu avec toutes ces associations ou ces offices du tourisme qui mettent en avant ce territoire, mais qui n'ont peut-être pas aussi le temps d'aller chercher ou d'aller vraiment explorer des petites anecdotes de village. Et à ce jour, sur le Loir-et-Cher en tout cas, ça a été un travail qui a été fait dans les débuts du XXe siècle. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais citer la légende de Saint-Mi. C'est ce qui a donné la création du village de Huisseau-sur-Cosson. Et donc, je pars de cette fontaine qui a été créée, de la légende de cet ermite. Pourquoi? Quand est-ce qu'il est arrivé? Et là, on peut visiter le village à travers cette légende en allant voir sa fontaine et après découvrir les sentiers à côté pour se promener. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le Loir-et-Cher qui ne sont pas forcément faciles à référencer parce que ce ne sont pas des acteurs, il n'y a pas d'association parfois derrière. Ce sont des lieux-dits, ce sont aussi des endroits qui se découvrent en fait. Et donc dans ce guide, j'ai aussi bien mis en avant des associations qui proposaient des actions qui étaient peu connues par les habitants. Quelqu'un qui habite à Romorantin n'est pas forcément au courant de ce que peut proposer les associations à Troyes. Et aussi de mettre surtout en avant cet autre patrimoine qui n'a pas forcément de personnes pour le maintenir, ou en tout cas pour le raconter surtout. Mmh. Les seules personnes qui peuvent, ce sont des anciens, et qui connaissent, donc parfois ne vont même plus raconter leur histoire. Donc c'était de rassembler ces légendes, ces croyances, ces histoires, ou aussi de permettre aussi à des gens qui font rayonner le territoire, de se mettre en avant. Par exemple, je reprends quand on va sur Bracieux, on a tous aperçu une sculpture de ce fameux Porthos, ce mousquetaire. On va vers le rond-point d'Onzain, on voit encore une sculpture en inox d'une légende, on dit que c'est l'allégorie à la vigne, et on ne se pose pas la question qui est cet artiste. Et en fait, c'est un artiste du Loir-et-Cher qui a travaillé sur ce savoir-faire qui est le travail de l'inox. Il est très connu dans son secteur, et j'ai préféré du coup, par exemple, le mettre en avant, mettre son travail, mettre comment il travaille et comment il a... Il, il rend un petit peu ces ronds-points et ces places de village avec une petite touche artistique, et ça apporte aussi quelque chose. Je pense que le Loir-et-Cher, on a tous... ce qui surprend, c'est que tout est toujours bien fait, un peu mignon dans ces villages, ces fleurs. C'est vraiment le goût du détail qu'on retrouve souvent dans ce territoire. Et donc, pourquoi pas parler des artisans et des artistes qui œuvrent aussi à ce patrimoine.
David, le Loir-et-Cher, comment il se positionne par rapport aux autres départements de la région centre sur le secteur du tourisme? Comment il se porte?
Alors globalement, il y a une espèce... l'ensemble du Val-de-Loire est assez homogène en termes de fréquentation, en termes d'offres, de nombre de nuitées. C'est relativement homogène. Il se trouve qu'en 2024, la fréquentation de la destination de Bois-Chambord-Val-de-Loire était un tout petit peu au-dessus en fréquentation du reste du Val-de-Loire, parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont rentrés en jeu, des stratégies qu'on a mis en place peut-être, qui ont fait qu'on était en progression du nombre de nuitées, par exemple, ce qui n'était pas tout à fait le cas sur le reste du Val-de-Loire, sauf du côté de Saumur, par exemple. Bon, ceci étant, nous, on raisonne assez rarement en fréquentation hyper localisé, tel qu'on peut en parler aujourd'hui, mais on essaie de vraiment penser Val-de-Loire, parce que l'enjeu du tourisme de demain, c'est pas d'hyper concentrer les fréquentations. C'est au contraire de savoir gérer les flux et de savoir les étaler sur une destination qui soit une destination cohérente. Et le Val-de-Loire, c'est vraiment c'est un enjeu très important pour nous que de dire on est capable de promouvoir notre destination. Bien sûr, il y a des acteurs qui y travaillent. Il y a des stratégies qui se mettent en place spécifiquement parce qu'on a une identité particulière. Mais globalement, la question des flux et de tout ce qui est la massification du tourisme en général, nous, on la prend en compte justement pour essayer de valoriser l'ensemble du Val-de-Loire, parce que c'est ça qui fera l'étalement territorial de ces flux, fera qu'on arrivera à mieux gérer ces fréquentations importantes.
Par exemple, le château de Blois, sur une année, combien de visiteurs sont accueillis?
Alors, on a les détails d'un château, mais encore une fois, nous, on raisonne sur l'ensemble de notre destination, parce qu'on considère qu'une entrée d'un visiteur, ça peut être la même que celle qui ira à Chambord le lendemain. Mmh. Et donc, on estime, nous, sur la destination Blois-Chambord-Val-de-Loire, qu'on est autour de 2 millions de visiteurs chaque année, entre 1,8 million et 2 millions de visiteurs qui circulent autour sur les deux rives de la Loire, dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc ça, on sait qu'on a un volume... On a un volume de visiteurs qui est important, donc on a plus de 2 millions, enfin on a autour de 2 millions de nuitées sur nos destinations, donc on commence à être dans la sphère des destinations à forte fréquentation, donc il faut faire attention, il faut être un peu prudent. Et il faut renvoyer aussi, pour rester sur le sujet de l'offre, il faut faire attention à ne pas hyper concentrer vers un site ou vers deux sites. C'est pour ça que c'est intéressant de voir. Alors, vous étiez depuis 4 ans arrivé dans le Loir-et-Cher, donc c'est intéressant déjà de voir
l'intérêt
d'une personne à se dire oh là là, il y a des choses à découvrir. Donc, ça, c'est formidable, c'est que ça marche, l'intérêt fonctionne. C'est que le petit qualité plus qu'on essaie de promouvoir fonctionne. Et puis, ça donne de l'information, tous les types d'informations sont là. Mais en tout cas, quand on a à travailler sur la promotion d'une destination, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous on a voulu vraiment travailler sur les grands sites que représentent les châteaux, bien entendu. C'est l'offre première sur le territoire. Mais par exemple, avec les élus du territoire de la destination Bois-Chambord-Val-de-Loire, la question de l'accompagnement des animations s'est faite de manière assez importante, puisqu'il y a eu depuis plusieurs années une volonté d'approcher ce dont on parle autour du territoire vécu, de la destination vécue. En fait, ce qu'on voulait, nous, c'est que toute l'offre culturelle qui peut chercher à travailler durant la période de haute saison, mais aussi basse saison, il faut qu'elle soit accompagnée. Et donc, du coup, on a essayé de mettre en lien, on a essayé de définir un certain nombre de critères pour pouvoir accompagner des offres culturelles qui soient spécifiques à notre destination, et notamment à l'offre culturelle, patrimoniale, musicale, enfin tout ce qui peut exister. Et c'est relativement rare, je le souligne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de destinations qui aujourd'hui mobilisent des moyens pour accompagner l'offre culturelle. On voit ce qui se passe dans les pays de la Loire où il y a une disparition totale de l'accompagnement culturel. Et ce qui est un véritable drame en matière de notoriété. Alors à court terme, ça ne se voit pas trop, mais à plus long terme, je pense que la partie Pays de la Loire, du Val-de-Loire, va vite ressentir la carence culturelle. Et donc du coup, moi je me satisfais que nos élus, d'où qu'ils viennent, accompagne cette offre culturelle sur notre territoire. Et en fait, ça rejoint tout ce qu'on détermine aujourd'hui, c'est-à-dire le petit patrimoine, la petite pépite qu'on a pu découvrir, le groupe de musique qui va pouvoir se produire dans un château, une pièce de théâtre qui va être sur le bord de la Loire, qui va venir faire une lecture. Enfin, il y a des tas d'offres comme ça qui sont fondamentales et qui font que notre destination aujourd'hui répond clairement au choix de notamment international, au choix de destination que font les visiteurs qui viennent nous voir. Ça explique, tout à l'heure je disais qu'on était un petit peu en fréquentation, en augmentation de fréquentation. Ce type de choix
explique
en particulier le résultat.
Cet intérêt.
Mmh. C'est pour ça que je me permets de rebondir, justement, c'est très intéressant, c'est que le travail de ce guide, c'est pas moi, enfin moi je me remets pas du tout, c'est justement exactement ce point, c'est que les offices du tourisme déjà proposent et soutiennent des entrepreneurs qui animent, qui font des associations. Et si on peut, en plus, moi je ne suis donc pas une association, je suis indépendante, je suis médiatrice culturelle, je suis à mon compte, je travaille vraiment pour fédérer quelqu'un qui me dit, voilà, il y a trop de monde à Chambord, il y a trop de monde à Cheverny, qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant? Mais il y a tellement de choses à faire qu'on peut faire. Par contre, évidemment, ce sont des sites qui ne sont peut-être pas... quand je dis facile d'accès, c'est surtout... on prend le cas, par exemple, on va à Verde. Donc déjà, Verde, c'est dans le nord du département. Personne ne va jamais à Verde, ça, je vous le dis. Mais ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que je suis intervenue dans une école. J'ai parlé aux enfants de nos légendes et donc de Verde, ce village. Et quand j'ai raconté que cette route gallo-romaine qui traverse un peu ce village, qu'on voit, qui est visible, est aussi une route qui a une légende derrière, la légende du diable. Le diable serait venu à Verde avec la légende de Saint-Romain. J'aurais raconté l'histoire. Et tous ces enfants, du CP au CM2, ils en gardent encore le souvenir, ils veulent aller voir la route du diable à Verde avec les parents. C'est peut-être tout bête, mais de peut-être pousser les gens à se dire, ben, on va aller voir cette route, et puis on va finir à la chapelle de Guirito à côté d'Arville. Elle a une légende, elle est dans un petit virage. On ne peut pas en faire un vrai lieu comme Chambord, parce que c'est quelque chose qui est un peu isolé et qui n'est pas facile, parce que la chapelle de Guirito, enfin l'abbaye de Guirito, pardon, j'ai fait un travail de fond. Je suis allée dans les archives, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Mais si je peux apporter ce plus à des offices, à des associations ou à des gens qui veulent faire parler de l'identité du Loir-et-Cher, c'est quoi le Loir-et-Cher réellement? Il y a quand même une identité qui est particulière. On n'est pas en Touraine, on n'est pas dans le Loiret, on n'est pas. Et c'est marrant, ça serait bien de justement de reprendre un peu les racines d'un territoire où. Qu'est-ce que le Loir-et-Cher? Et il y a beaucoup de gens qui vous diraient « je préfère le Loir-et-Cher à la Touraine ». Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence? Qu'est-ce que tu ressens? Et ce ressenti, en ce qui me concerne, j'ai voulu le mettre dans ces lieux pour mettre vraiment en avant cette identité propre à ce territoire que je pense tout le monde aime ici, sur cette table en tout cas.
Justement, votre réflexion arrive à une des questions que je voulais vous poser. Il y a un article de France 3 maintenant ici qui était sorti au début de l'année s'intitulant « Pourquoi la moitié des habitants du Centre-Val de Loire se fichent de leur région ?» Selon le baromètre des territoires 2025 de l'Institut de sondage ELAB, seuls 57% des 113 et des 113 se disent attachés à la région, soit le pire score de tout l'Hexagone derrière l'Île-de-France et l'Occitanie. Et les plus fiers du pays sont bien sûr les Bretons et les habitants de la région PACA. Alors, je voulais vous faire réagir là-dessus.
Allez-y, oui. Ça,
alors, quand on parle région Centre-Val de Loire, il y a une partie des habitants du Centre-Val de Loire qui sont des Parisiens un peu éloignés de la capitale parce que le prix pour y vivre est trop élevé. Donc, je pense que le sondage est un tout petit peu biaisé par tous ces habitants qui ont probablement été interrogés et qui n'ont pas encore découvert. Il faut peut-être attendre 4 ans pour vraiment s'y attacher et s'y installer. Non, c'est un peu... à mon avis, c'est assez anecdotique. Mais ça renvoie quand même à une question qui est importante pour les offices de tourisme. C'est la question de la, du développement touristique, de l'avenir du tourisme. Et qu'est-ce qu'on veut en faire de ce tourisme-là ? On se dit, on a fait beaucoup de promotions à l'international. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années, où on se disait, il faut absolument aller en Chine pour aller chercher des Chinois qui viennent passer leurs vacances à Blois. Et on sera content d'avoir vu des gens qui viennent de l'autre bout du monde chez nous. Mais finalement, quand on y réfléchit, les gens de l'autre bout du monde, ils n'ont pas forcément des pouvoirs d'achat plus importants que ceux qui habitent dans le coin. Et globalement, ils font beaucoup plus de mal en prenant 10 fois l'avion que ceux qui sont habitants de la région. Et on s'est tourné, nous, donc cette réflexion, elle est pas commune, enfin elle est assez commune dans le Val-de-Loire, mais elle est pas propre à toutes les destinations qui aujourd'hui, beaucoup d'entre elles font le choix de l'international, par exemple. Nous, on fait pas ce choix-là. On fait ce choix de dire, on considère que les habitants sont des ambassadeurs, que les habitants, en effet, n'ont pas une connaissance fine de l'ensemble du Val-de-Loire. Et donc, il est intéressant de pouvoir les accueillir comme on accueille des amis. Alors, il se trouve que c'est des amis qui habitent un petit peu moins loin que les Chinois, mais qui finalement sont très importants parce qu'ils viennent, ils reviennent, ils consomment, ils vivent, ils deviennent des relations avec les gens qui sont dans le coin. Et finalement, c'est du tissu relationnel qui fait qu'une destination, elle est vivante. Et ça, pour nous, c'est un enjeu qui est très, très important. Parce que on aura toujours cette clientèle internationale qui viendra voir les châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, ça c'est certain. Mais il y a aussi un enjeu de proximité, parce que c'est un tourisme qui existe, qui fait vivre une économie locale et qui a tout son sens, autant que de faire traverser le monde par des milliers d'avions.
Patrick, sur cette question de l'identité, et puis aussi peut-être à Vendôme, vous qui êtes vice-président de l'Office de tourisme, est-ce que c'est des questions également, j'imagine, au sein de l'équipe ?
Oui, bien sûr, mais comme le disait mon voisin à l'instant, nous on a quand même repéré qu'on avait au final, donc par rapport aux statistiques que vous avez annoncées tout à l'heure, pas mal de gens de la région Centre-Val de Loire qui voyagent. Je suis en plus hébergeur, je suis propriétaire de chambres d'hôtes et de gîtes, et je peux vous dire que nous avons assez régulièrement des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur territoire, donc qui restent une nuit, bien sûr, parce qu'ils n'habitent pas si loin que ça, au final, ou qui font le trajet dans la journée. Et nous, on voit bien que, bien sûr, on aime bien les voir arriver sur trot, quand je prends ma casquette de président de l'association Cœur de Trot, mais on les renvoie partout, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a les offices de tourisme, par exemple, mais il y a aussi les hébergeurs, les restaurateurs, les hôteliers, les artistes, les artisans, qui, en discutant avec les touristes, eh bien, leur disent « Oui, c'est bien, vous visitez là, en ce moment, le village de Trot. N'oubliez pas d'aller à la Vardin. Allez faire Vendôme, le vieux Vendôme. Allez au Plessis-Sanières. Faites le château de Blois. Allez au musée de la magie. Et patati, et patata. »
C'est du bouche à oreille, comme
c'est
disait David.
Et ça fonctionne très, très bien. Et les gens sont très demandeurs de ce genre de choses. Vraiment. Mais vraiment.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute le morceau Le Touriste du groupe Chichi et Banane. Et on se retrouve juste après.
Normalement, le touriste, comme son nom l'indique, c'est celui qui fait un tour. Ça vient de l'anglais « touriste », lui-même venant du français « tour », comme quoi, finalement, les langues, ça se mélange bien. Mais aujourd'hui, « touriste », c'est devenu cliché. Faut dire que quand tu lis dans les journaux « un touriste dérangé par les cigales demande si on peut pas les exterminer », tu hallucines. Et lui, non, il veut la Provence sans les cigales. Mais la Provence sans les cigales, c'est un peu comme si tu allais à la pêche à la piscine municipale. C'est un peu comme si tu mangeais un aioli sans aillé ou comme si tu jouais à la pétanque avec des boules en plastique. Pire encore même, comme si tu allais la nuit à la plage pour te faire bronzer. De suite, quand tu entends touriste, tu t'imagines un mec sandalette, grosse chaussette, tenue d'excursionniste, chemisette, le teint blanc éclatant, marqué de rouge flamboyant. Mais méfie, car derrière le comique de cliché, il y a Murène Sougalet. Le tourisme de masse, c'est comme une machine à sous, tu perds à tous les coups. C'est pour lui que l'on construit des casinos et des supermarchés sur des terres à vignes arrachées. des parkings et des hôtels de luxe sur un bord de mer écorché. En se promenant sur les quais, le touriste pourra prendre en photo des estars, se pavanant sur leur yacht en s'empiffant de caviar. Il pourra observer des poissons privilégiés, hein, nourris au champagne et des strass de coque dorée. Il traversera un centre-ville Airbnb aseptisé, au loyer que nous ne pourrons plus payer, de sa populace populaire débarrassée, désert en hiver, blindé en été. Adieu l'âme de ma cité natale, sauf dans les vitrines de souvenirs qui vont fleurir, où le touriste pourra acheter de magnifiques cartes postales, de pêcheurs qui n'existeront plus, de vieux en bleu de Chine assis sur un banc révolu, de paysans qui ne sèment plus, de parties de boules perdues. Il est temps de se réveiller, amis de la cité, car nous savons que notre vraie couleur, c'est celle du bleu de Chine et de l'acier, celle du rouge terre, celle du vert olivier. Notre musique, c'est celle de notre accent, celle des marteaux, des chantiers sonnant au cri des gabions, celle du cliquetis des mâts de voilier, du pot-pot, du moteur, du pointu. Et notre essence, c'est le sel et la sueur qui perlent du corps des travailleurs.
Vous êtes toujours dans la lorgnette pour ce dernier épisode de la saison 2024-2025. On parle tourisme et patrimoine aujourd'hui dans la lorgnette avec nos trois invités. On a un peu évoqué déjà le tourisme de demain avec vous, David, qui se centrerait plus sur le territoire et qui est déjà quelque chose qu'on voit apparaître. On parle parfois de slow tourisme, hein, cet éloge de la lenteur. Est-ce que ça, Candice, c'est quelque chose que vous vouliez aussi mettre en avant, le fait d'être dans le local, mais aussi de prendre peut-être une autre façon de voyager, de découvrir le territoire?
Tout à fait. En fait, c'est un constat. C'est qu'aujourd'hui, on a envie de découvrir, mais parfois par manque de temps, de moyens, ou parce que voilà, on va décider de prendre ce qui est accessible. Et parfois, on a envie de rester un peu plus et c'est ce petit peu plus, c'est qu'une fois que les gens auront fait les grands sites, j'aimerais qu'il reste une nuit supplémentaire pour se dire on n'a pas eu le temps d'aller à tel endroit et là on va vraiment rentrer peut-être dans une authenticité, dans quelque chose de plus calme parce qu'il y aura peut-être moins de foule et peut-être justement de boucler cette boucle et de se dire on aura vraiment visité ce territoire dans toutes ses facettes en fait, aussi bien le côté rayonnant de ce patrimoine noble gastronomique, mais pourquoi pas aussi d'aller dans un petit restaurant qui met en avant les artisans avec le mobilier, qui a un artiste qui est très dans le local et qui va faire des portraits d'animaux, des portraits typiques des animaux de forêt, qui est connu, reconnu par son talent et dont on peut découvrir une des fresques à la mode Beuvron quand on traverse le village. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir, mais il faut deux choses. La curiosité et, comme on disait, c'est le Loir-et-Cher se mérite. Il faut vraiment peut-être se donner ce temps et d'aller vraiment prendre le temps au resto pour discuter un petit peu des autres histoires, peut-être. Et ça peut donner envie de revenir à une autre saison, en octobre, en novembre. Pourquoi pas ? Parce que je trouve que le Loir-et-Cher, contrairement à certaines régions, peut se visiter vraiment à n'importe quelle saison. C'est une des choses qui a fait que j'ai choisi de venir vivre en Loir-et-Cher, parce que je trouvais qu'en Loir-et-Cher, il y avait toujours quelque chose à faire, à n'importe quel moment de l'année.
Et dans les destinations que vous répertoriez dans votre guide, dans ces 111 lieux, il y a certains lieux qui ne sont que accessibles et dont l'activité n'est faisable qu'en hiver, par exemple.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, et puis, sans compter, donc, vous avez cette personne qui vous propose de faire une balade en chien de traîneau le matin, à l'aurore, dans cette campagne de la Petite Beauce. C'est extraordinaire d'entendre ces chiens loups, de voir se lever du soleil, cette fraîcheur, c'est une émotion que l'on peut avoir chez nous. On n'est pas obligé d'aller en montagne, on peut offrir ça à ses proches. On peut faire des sentiers, on peut découvrir des églises qui exposent des artistes locaux, des fresques extraordinaires à Orchez, 85 mètres de haut de Denis Solaire, qui est une fresque extraordinaire. Il faut l'avoir vue pour se rendre compte de l'impact de cette œuvre. Mais peu de gens n'est peut-être pas au courant, ou peu de gens ne s'intéressent ne veut s'arrêter peut-être dans un village, traverse le village très très vite, et puis par manque de temps, ou je ne sais pas. Donc c'est ça, ce serait le but, c'est de pouvoir offrir un petit guide pour repérer des endroits à visiter tout au long de l'année, et surtout qu'on soit un touriste de passage, ou surtout qu'on habite la région, surtout peut-être ceux qui habitent le territoire, pour qu'ils puissent être les meilleurs ambassadeurs.
Patrick, à Vendôme, comment est perçu le tourisme par les Vendômois ? Est-ce qu'on voit beaucoup de touristes internationaux, comme on peut le voir à Blois, dès que le soleil revient, ça parle espagnol, ça parle anglais dans les rues ? Et comment c'est perçu ces flux touristiques dont on parlait avant par la population ?
Bon, alors il est évident que Vendôme, par rapport à Blois, on est quand même une petite ville, 18 000 habitants. Il y a quand même, heureusement, des touristes étrangers, mais on n'est pas sur un tourisme de masse. Donc c'est ça qui est très plaisant, en tout cas dans ce qu'on appelle, nous, le Vendômois, c'est que nous n'avons pas des groupes, des quarts, des... Tout à l'heure, David parlait de Chinois, donc c'est vrai que, à mon avis, c'est pas trop... très représentatif vraiment des touristes quand vous avez plusieurs cars qui arrivent et qui restent sur un temps bien déterminé et qui ne profitent de rien, c'est pas ça qu'on recherche. Alors c'est pas évident quand vous vous lancez dans le tourisme parce que vous essayez de développer, mais il faut pas non plus que ça parte dans l'excès. Bon, nous on a encore de la marge, mais les habitants de Vendôme, eh bien je pense que tant que ça restera quand même gérable... Mais je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on aurait des millions de visiteurs sur Vendôme. Mais c'est quand même bien perçu. Les Vendômois sont contents qu'on vienne les visiter. Et ils sont contents de raconter leurs petites histoires, d'indiquer... Tout le monde le fait, hein, quasiment. Eh bien, écoutez, vous avez fait Vendôme, allez là, allez là, allez là. Vous savez, moi, quand j'ai commencé dans l'hébergement, je suis arrivé en 2004 dans la région. Hein. Moi, je ne suis pas originaire non plus d'ici. Hein. Je suis natif de l'Oise. Je suis tombé amoureux de cette région, de la région Centre-Val de Loire, principalement le Loir-et-Cher. Et en fait, je ne pensais pas que j'allais découvrir de tant de choses. Il faut prendre son temps. Il faut les faire petit à petit. Et en tant qu'hébergeur, j'ai été vraiment surpris au tout début, quand j'ai commencé, parce que les gens venaient, notamment beaucoup de Parisiens, pour faire les châteaux de la Loire. Alors ils venaient dormir chez nous, et ils étaient quand même à 50 minutes, une heure de voiture. Je comprends pas, mais pourquoi ? Alors bon, suivant la saison, c'était peut-être parce que c'était complet là-bas, en tout cas, sans doute parce que c'était plus cher aussi. Mais il y avait des gens aussi qui commençaient à comprendre qu'il valait mieux se décaler un petit peu et être loin de l'effervescence et se reposer un peu. Et c'est combien de Parisiens j'ai eu qui m'ont dit « Mais le Vendômois, par exemple, mais on ne connaît pas. On fait de la pub sur Paris pour Chambord, le zoo de Beauval, etc. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de trouver des choses, des petites pépites, quoi. » Et en fait, voilà, c'est l'information qui fait que ça donne envie de revenir. On a plein de gens qui passent chez nous, qui passent dans le Vendômois, qui disent « on va revenir, on va faire découvrir cette région. » à d'autres personnes, à de la famille, à des amis.
David, vous parliez de la gestion des flux, de ces flux. Sur l'aspect écologique, qu'est-ce qui est pensé, qu'est-ce qui est mis en place ? Puisque qui dit flux dit plus de transport, de pollution éventuelle, etc.
Mais par exemple, nous avons travaillé sur la mise en place de navettes directes vers les châteaux, depuis la gare de Blois-Chambord. On se dit finalement c'est assez normal, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça a été donc ça a été important de pouvoir se dire à un moment on souhaite valoriser le transport depuis Paris, notamment parce que c'est un gros émetteur de visiteurs depuis Paris, pour proposer un séjour sans voiture. Mais qui dit séjour sans voiture, c'est aussi capacité à se déplacer vers les sites, parce que c'est malgré tout ça reste un essentiel. Et donc on a travaillé sur ces navettes directes qui sont proposées désormais depuis la gare de Blois vers les châteaux de Blois, de Chambord, de Cheverny, de Chaumont-sur-Loire, soit par train, soit par train plus navette, comme c'est le cas à Chaumont-sur-Loire. Donc ça, c'était un point important. Et puis, quand on parle de flux, on a aussi, il y a malgré tout une majorité de visiteurs qui viennent en voiture. Ça, on ne peut pas le faire, mais on ne peut pas s'en défaire. Ça reste une réalité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'attends avec impatience le jour où les trains depuis Paris seront réguliers, sans retard et sans travaux. petit message au passage, parce que ça pose réellement des réels problèmes. Quand on a des enjeux de transport doux, on a la question du train, elle est essentielle, et on s'est rendu compte que parfois les travaux sur les lignes entre Paris et Blois et même Paris et Tours se faisaient durant des périodes de grands week-ends où traditionnellement on a énormément de visiteurs qui viennent nous voir. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, quand on dit attention, quelle est la gestion des flux, comment on la gère, eh bien depuis plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, il y a eu un vrai enjeu une vraie stratégie mise en place autour du vélo. Mmh. Et en fait, vous le savez peut-être, les châteaux de la Loire à vélo, qui étaient initialement les châteaux à vélo, qui aujourd'hui s'appellent les châteaux de la Loire à vélo, en fait c'est un réseau de boucles autour des châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, sur notre destination, qui ont été aménagés, qui ont été promus. Et qu'aujourd'hui, on rencontre une demande très forte, et d'autant plus forte que la région a engagé, et les autres, et le reste du département, les autres départements limitrophes aussi, ont engagé des moyens importants pour faire de cette offre à vélo une vraie offre structurante. Et on est aujourd'hui la première région française en termes de fréquentation par cyclotouristes. Donc c'est très important. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, c'est vraiment un marché très important qui répond à la fois à l'offre loisirs, culture, sport de pleine nature et patrimoine, et puis qui répond aussi aux enjeux de déplacement doux, sans pollution, de slow tourisme tel qu'on l'évoque régulièrement. Et donc du coup, cette question du vélo et de l'offre de l'aménagement des pistes cyclables. Et là, en ce moment, il y a un gros travail qui est fait par le Pays des Châteaux, notamment pour réaménager, pour vraiment travailler sur la qualité de l'offre des réseaux cyclables sur notre destination. Eh bien, pour nous, c'est un vrai enjeu. Et franchement, il y a 15 ans, moi, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années dans ce secteur. J'étais étonné de voir à quel point les élus étaient engagés et qui étaient précurseurs même en disant on sait que dans 15 ans, en tout cas à l'époque, ils me disaient dans 15 ans ou dans 20 ans, la question du vélo et du déplacement doux sera un effet majeur, parce qu'il nous permettra aussi de gérer la question des flux qui reste une préoccupation qu'on doit avoir en tête en permanence. Je pense que c'est le cas de tout le monde, y compris d'ailleurs quand on rédige un ouvrage, en se disant, c'est sans le savoir peut-être, on se dit, en offrant toutes ces pépites au public, c'est aussi un moyen de dire, de rentrer dans le jeu de la diffusion des fréquentations sur l'ensemble d'un territoire.
Candy et Patrick, on sent aussi dans l'écriture de ce guide et puis dans votre action avec l'association Au Cœur de Trot, cet amour du patrimoine. Est-ce que le patrimoine, ça reste ce que viennent chercher les touristes par rapport à
d'autres offres?
Oui, est-ce que ça reste l'enjeu clé du choix d'une destination touristique?
Oui, sur Trot, par exemple, puisque je reprends ma casquette...
Oui, au cœur de Trot.
Sur Trot, c'est un ensemble. C'est le patrimoine, parce que c'est une cité troglodytique, donc ça interpelle. Mais il y a aussi cet esprit campagne, le paysage, le fait d'être serein, d'aller lentement. On sent vraiment que les gens sont de plus en plus attirés vers le patrimoine, la liberté de pouvoir voyager dans la nature. C'est vraiment un changement. En tout cas, moi, je le ressens comme ça sur le village.
Candy et David, vous voulez réagir?
Alors moi, je pense que le patrimoine, ça concerne tout le monde, touriste ou pas touriste. Parce que connaître son patrimoine ou connaître le patrimoine d'un pays qu'on visite, c'est en fait connaître ses racines. Donc, quand on visite un endroit, on a tous envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est quoi l'histoire, y a-t-il une croyance, y a-t-il un personnage qui a vécu ici, Et on a envie de s'imprégner du lieu, on a envie de connaître l'âme d'un lieu. Et je pense que c'est propre à l'homme d'avoir une émotion à travers une expérience. Et quand on part en vacances, on recherche avant tout, même si au bout de 5 jours, vous êtes toujours, vous êtes dans un camping au bord de la piscine, à un moment donné, ça, vous avez envie de sortir, d'aller découvrir un marché nocturne, un artisan, une sortie. C'est un besoin, je pense, pour l'homme de rencontrer les gens du territoire.
David, vous voulez réagir ?
Ah oui, la question du patrimoine, elle reste essentielle. Et surtout, quand on parle patrimoine, on parle de tout type d'activité sur un territoire. Moi, je considère que, par exemple, la question d'un marché, puisque vous l'évoquiez, ça fait partie du patrimoine, même si à la représentation première, ce sont celles des grands châteaux sur notre territoire. Mais un marché en bord de Loire, ça fait partie du patrimoine. Les musiciens de Loire, par exemple, qui viennent jouer les musiques traditionnelles, font partie du patrimoine. Tout ça, ça fait partie d'un tout qui nous permet de considérer qu'en effet, le mot patrimoine est au cœur de tout le tourisme d'une manière générale. Mais on peut quand même, si on reste autour des châteaux pour aller vite, il faut qu'on ait toujours en tête l'idée. Moi, je reprends toujours au flux. Par exemple, il y a depuis 5-6 ans, on a mis en place une campagne régulière de communication autour de nos petits châteaux, en disant que nos petits châteaux ont du caractère. Donc c'est une campagne de promotion d'affichage que l'on a posée tout près des grands châteaux, les gros châteaux. Donc on a posé de l'affichage en disant: vous avez bien vu le château de Chambord, vous avez bien fait, c'est le Taj Mahal, faut pas le manquer. En revanche, nos petits châteaux ont du caractère. Et quand on pense par exemple au château de Talcy, qui en a bénéficié de cette campagne de promotion, on se rend compte qu'aujourd'hui la fréquentation de Talcy est en augmentation, et surtout on se rend compte que la satisfaction des visiteurs qui y viennent, elle est entière, elle est immense. Comme d'autres, je vais pas les reprendre, mais comme d'autres offres qui sont sur notre territoire. Et donc on a, nous, cet enjeu, comme professionnels du tourisme, de maîtriser la façon dont on va proposer aux visiteurs d'aller à un endroit ou à un autre. Et je pense que l'ouvrage dont on parle tout à l'heure, dont on a parlé depuis tout à l'heure, en fait partie entièrement, et c'est important.
Il y a l'aspect aussi caractérisation, je ne sais pas comment trop dire ça, mais dans votre guide, par exemple, quand on dit « on vous suit dans vos escapades », donc on suit quelqu'un avec cette idée d'arpenter le territoire. Vous parliez des gros châteaux et des plus petits. C'est vrai que quand on va visiter un petit château, on aime aussi ces visites-là, parce que souvent, le propriétaire est là, fait lui-même la visite, et il y a cet aspect personnalisation de la visite.
Je rebondis sur ce que disait David, le plus important, je pense qu'il faut qu'on fédère nos actions communes et qu'on n'est pas en concurrence l'un de l'autre. On doit vraiment créer des ponts, et chacun a une expertise à sa manière. Et si on peut travailler tous ensemble sur des actions communes, je suis convaincue que, surtout en plus, le Loir-et-Cher, avec toute la richesse de son histoire, on peut vraiment créer un lien, une destination incontournable, et les habitants seront fiers d'habiter le centre.
Patrick.
Eh bien oui, mais je comprends ce que dit Candy, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle raconte. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on fait, de toute manière. C'est qu'on fédère, on travaille avec des associations, avec des offices de tourisme, avec des propriétaires de châteaux, de grands châteaux, de petits châteaux. En fait, on est là pour indiquer à chaque touriste, qu'il y a énormément de choses à voir, qu'il faut prendre son temps. Et comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un changement. On sent que les gens, ils veulent aller plus lentement. Ils veulent trouver des petites pépites. Ils veulent faire quand même, par exemple, Chambord, évidemment, il faut faire ce genre de château. Mais ils veulent voir plein de petits trucs. Alors, un livre comme le livre qu'a écrit Candy, évidemment, là, c'est extraordinaire, quoi. Il faudrait que tu t'attelles à...
C'est 2 ans de travail, quand même.
Oui, mais il va falloir que tu te remettes au boulot pour poursuivre.
J'avais, en fait, au départ, c'était la grande curiosité. C'est 111 lieux. Je me suis dit, je ne trouverai jamais 111 lieux, 100 châteaux, 100 sites trop connus.
C'était un peu la ligne directrice de votre maison d'édition.
Après, vraiment au départ, c'était un peu compliqué. Et finalement, j'en ai trouvé. Après, ça a été un parti pris de ne pas tous les citer, parce que c'est des patrimoines qui restent fragiles dans certains cas. Donc, il faut peut-être aussi d'abord qu'il y ait une structure derrière avant de les mentionner. Ou après, il faudrait d'avoir du temps. C'est, ce guide, je l'ai travaillé comme une thèse à la fac d'histoire de l'art, en essayant de vraiment amener en très peu de mots, parce que j'avais que 2000 mots, espace compris, d'essayer de susciter cette curiosité. C'est ce qu'on disait tous, c'est quand on fait une publicité sur le Val-de-Loire à Paris ou une petite association, on veut ne serait-ce que susciter la curiosité. Venez nous voir, parce que en une phrase, il faut que la personne se dise « Ok, il faut que j'y aille absolument ». Et c'est toute la difficulté du marketing et de faire venir ces gens-là pour que ça soit vraiment bien pensé, pas simplement quelque chose qu'on survole et finalement... avoir tout loupé finalement.
Et je trouve qu'il est d'autant plus parlant en fait pour les locaux et les habitants du territoire, parce qu'on se dit ah bah tiens, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de cette pagode à Romorantin, qu'est-ce qu'elle fait là. Et je trouve que c'est d'autant plus parlant pour les habitants. David.
Pour conclure, peut-être je dirais que ce qui fait plaisir quand on a des discussions comme ça, c'est considérer qu'en fait on est une grande destination, une espèce de famille. On pense souvent quand on parle tourisme aux stations de ski par exemple, ou quand on démarre la saison, tout le monde se connaît, les restaurateurs, les moniteurs de ski, enfin bref, on est dans un village et on est dans une destination, une station touristique où tout le monde vit ensemble, et on sait que pendant une année, enfin une haute saison, on va travailler ensemble. Et ensuite, je me rends compte qu'au fil du temps, sur la destination Blochambord, dans le Val de Loire d'une manière générale, il y a cet esprit qui est en train de naître et de croître autour d'une espèce d'appartenance commune, de valeurs communes, d'envie d'aller présenter ce que font les autres destinations. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment le signe d'une particularité de notre région, de notre destination et de notre département, de notre Val-de-Loire, en fait. C'est une vraie particularité de se dire que finalement, il y a une espèce de tronc commun qui est une colonne vertébrale, la Loire et puis les à bord de la Loire, bien sûr, pour dire qu'on est tous porteurs d'une valeur et d'une forme de tourisme qui soit un tout petit peu différenciée d'autres marchés. Je pense au sud de la France, ou voilà, je les citerai pas forcément, mais des endroits qui me séduisent personnellement, qui me séduisent beaucoup moins.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle le titre de votre livre, Candy, 111 lieux en Loire-et-Cher à ne pas manquer. Patrick, on peut vous retrouver soit en étant hébergé dans votre chambre d'hôte au cœur de Trot, ou bien avec l'association du même nom, bien au cœur de Trot. Et David, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme Blois-Chambord Val-de-Loire. Merci à tous les trois. C'était le dernier épisode de La Lorgnette de cette saison. Passez de bonnes vacances, un bel été, et on se retrouve en septembre prochain pour une nouvelle saison de La Lorgnette. Merci beaucoup.